Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission Ici Londres,
un micro tendu au monde.
Aujourd'hui, je vous propose d'écouter des amoureux du son, des amoureux de l'écriture sonore.
J'attends mon interview après, je finis là-bas.
Donc là, je me trouve dans un parc qui fait plutôt beau.
Vous faites quoi, monsieur ?
Je suis assis sur un banc face à un bâtiment qui accueille un festival,
bonjour.
Le festival du podcast.
Vous faites quoi, monsieur, à l'entrée ?
Je travaille.
C'est à quoi il consiste, votre travail ?
Mon travail, c'est le filtrage à l'entrée. Je filtre. J'ai plus de voix.
Ah, ça tombe mal.
Je fais le filtre. Il n'est pas sérieux, ce mec.
Bonjour. Est-ce que les gens disent bonjour ?
Pas tout le monde. La preuve. Ah, ben voilà.
J'attends que vous vérifiez mon sac, puis après, je vous dis bonjour. Chaque chose en son temps.
Merci, madame.
Voilà. Bonjour.
Le podcast, c'est une écriture différente de celle de la radio. Paraît-il qu'il tourne souvent autour du jeu. Le jeu, jeu avec l'écriture, et aussi le jeu à la première personne.
Premier live, c'est un tout petit peu
impressionnant. Je suis réalisatrice de podcast, je suis grande auditrice.
Et de tenir tabou comme ça, pour éviter les problèmes de connectique là, mais si t'en as pas, c'est pas obligatoire, mais tu vois, de boucler le truc pour pas que ça bouge. Tu vois, à ce niveau-là, donc de le tenir comme ça. Bon, c'est ce qu'on m'a appris.
Après, alors, la leçon de maintien de microphone, elle est de qui ?
Voilà. Je m'appelle Sylvain Gir, je suis le responsable d'Arte Radio.
.com.
On a créé Arte Radio en 2002.
Arte Radio.
Je crois que vraiment l'enjeu dans le podcast, c'est une question d'adresse, c'est comment on parle. Et moi, j'ai tendance à relier ça à une vogue du jeu. Et cette vogue du jeu, elle a démarré en dehors du podcast. On la voit dans la bande dessinée autobiographique, le succès de Riyad Satouf, de Marjane Satrapi, d'Art Spiegelman. Oups. Désolé.
Une vogue du jeu.
Elodie Font a fait un podcast il y a 2 ans sur Arte Radio qui s'appelle Coming In, qui dure 30 minutes. Donc un one shot, un documentaire de 30 minutes, il n'y a pas de suite et tout. Elle raconte, coming in, c'est l'inverse du coming out, c'est pas dire aux autres qu'on est homosexuel, c'est se le dire à soi-même, c'est accepter son homosexualité. Ce podcast a connu des dizaines de milliers d'écoutes. J'ai rencontré ici au Festival du Podcast une jeune fille de 16 ans qui m'a dit à quel point ce podcast avait été fondamental pour elle pour s'accepter. Et ce podcast lui a valu des centaines de mails de parents, d'hétéros, d'obos. S'accepter, savoir qui on est, accepter sa sexualité et ses tendances... Bon bah, c'est pas un sujet journalistique, c'est un sujet qui ne peut être traité au jeu. On parle pas d'homophobie, on parle pas de violence, on parle pas de choses comme ça, on parle pas de statistiques, on parle pas de sociologie. C'est quelqu'un qui raconte son parcours, mais plus elle a été sincère et drôle et personnelle et intime, plus elle a touché des milliers de gens. Et ce podcast continue encore aujourd'hui à lui valoir plusieurs mails par semaine. Voilà un travail dont on peut être fier.
Je m'appelle Christelle Bakima, j'ai 22 ans et je suis la créatrice et productrice du podcast Back to Congo, disponible sur SoundCloud. J'ai fait un podcast sur mon séjour de 3 semaines au Congo-Brazzaville en juin, dont ma famille est originaire, et c'est un podcast de 15 épisodes. Mais au départ, j'étais surtout consommatrice de podcasts. Et après, j'ai eu envie d'en créer un. Et du coup, voilà.
On le voit très très bien dans ce festival, je trouve, une émergence de voix qui n'ont pas accès aux médias traditionnels.
Je crois qu'on est beaucoup à une ère de la question du récit. Comment on raconte une histoire ? Et finalement, commencer au jeu, c'est une bonne façon de raconter une histoire.
C'est différent de la radio, parce que souvent, les podcasteurs ne sont pas connus. Et en fait, j'ai l'impression que le sujet est plus poussé que la personnalité à la radio, qui doit être visible, vue, avoir une audience. Et du coup, je trouve que c'est différent comme expérience quand même.
Il y a une défiance envers ce qui se prétend objectif. Il y a une grande défiance envers les médias. Mais bizarrement, l'auteur, la signature, la personne qui s'affirme avec le « je » paraît aujourd'hui finalement plus crédible que le journaliste qui n'a pas le droit de dire « je ». On a eu un podcast l'an dernier qui s'appelle « Mon enfant terrible ». C'est une mère qui raconte que son fils pique des crises de colère. Donc elle enregistre les crises de colère de son gamin. Et ben, sa première phrase, c'est « Ah, le bonheur d'être mère ». Ah, le plaisir. Et tout d'un coup, on entend son enfant qui hurle. Bon, bah, ce ton-là, cette accroche, cette adresse-là, elle n'est pas possible dans le journalisme. Et le journaliste va dire, je ne sais pas, les enfants à problème. Alors, on aura le psychologue, le psychiatre, la directrice de crèche, tout ça. Bon, on peut faire ça à la radio, on peut faire ça en podcast. Mais quand c'est porté par un jeu, et quand on entend cet enfant qui hurle, et quand on entend cette femme se débattre, pareil, elle a touché des milliers de parents qui se posent des questions. Voilà. Et là, c'est un travail formidable. C'est vraiment la possibilité. L'emblème d'Arte Radio, c'est un micro tendu. C'est un micro tendu au monde.
On est là pour dire les choses, Cédric. Personne ne se jugera ici, d'accord ?
L'intégralité de mon intimité se transforme tous les 6 mois. Donc, est-ce que vraiment cette hystéroscopie est indispensable ? Parce que je vous rappelle que pour moi, c'est un examen qui est particulièrement désagréable. Mais sauf que ça, c'est dans ma tête, parce que dans ce que j'exprime, en fait, je suis qu'une petite fille qui en a marre. Et je pleure. Et je suis à bout de nerfs, en fait. Je craque.
Dans son cabinet ?
Dans son cabinet. Et pendant ce temps-là, ce cher médecin ne daigne pas lever les yeux de sa feuille de...
Ah, il continue à écrire
son ordonnance. Voilà, en me disant, écoutez, mademoiselle, calmez vos nerfs. Donc évidemment, ça ne me calme pas, moi, ça m'énerve encore plus. Je sens que mon conjoint chauffe un peu. Mais en même temps, on se sent prisonnier parce qu'on a besoin d'eux, quoi. On a besoin d'eux pour faire ce fichu bébé. Et en même temps, on ne peut pas les supporter. Donc c'est une situation vraiment paradoxale parce qu'on se sent vraiment prisonnier d'une situation de merde.
La nécessité de s'exprimer.
Et moi, j'en ai marre. En fait, là, j'en ai marre.
La nécessité de s'exprimer. Arte Radio a un rendez-vous mensuel par Charlotte Bien-Aimée qui s'appelle « Un podcast à soi » qui parle des questions de féminisme, de genre et d'égalité. Ce rendez-vous existe depuis 1 an et ce podcast a un grand succès. C'est l'un des plus gros succès sur notre site. Charlotte Bien-Aimée l'a proposé à France Culture où elle travaillait avant. Elle avait fait 8 heures d'émission sur le féminisme. Elle propose un rendez-vous mensuel. En 2017, au printemps, la direction, on lui dit, bon, ça n'intéresse personne, ça ne vaut pas le coup de faire un rendez-vous mensuel. Bon, ben voilà, elle commence à travailler chez nous en octobre 2017, au moment de l'affaire Weinstein, le lancement du mouvement MeToo. Voilà, pourquoi il y a des podcasts comme Le Chip, qui a aussi commencé sur Arte Radio, qui parle de l'actualité avec un regard afro, on va dire, des personnes noires. C'est pas du tout une émission communautariste, c'est une émission qui est passionnante, y compris si on est blanc, on apprend plein de choses. Ça n'existe pas dans les médias traditionnels.
Oups. Je suis réalisatrice de podcasts et grande auditrice. Les femmes qui sont beaucoup plus présentes dans le milieu du podcast qu'elles le sont sur les ondes. Aussi les personnes racisées. Un grand nombre de podcasts qui parlent de sujets LGBT. C'est-à-dire des gens à qui on ne donne pas l'antenne. Des gens qui n'ont pas à qui on ne donne pas l'antenne, à qui on ne donne pas la parole, où on considère que finalement ça intéresse pas grand monde, finalement, oh là là, le féminisme, les femmes, le racisme, oh, c'est lourd, on m'a pas parlé de tout ça, et qui là ont un espace de prise de parole. Et la preuve, c'est qu'on les écoute, sinon il n'y aurait pas de festival aujourd'hui.
Les masses médias veulent s'adresser au plus grand nombre. Le podcast parle à des individus, et peut-être à des niches. Mais il se trouve que les niches, elles sont grandes. Si on parle de féminisme, ça concerne quand même 52% de l'humanité. Donc, voilà, la niche, elle a tendance à s'élargir.
Y'a rien. Comment on fait pour sauter ? Ok, ça. Ok, c'est ça. Ah là !
Non, il faut arriver.
Ah, attends. Ah, mais on n'arrive pas, on peut pas.
Comme qui, par exemple ? Noé ?
Picasso.
Ouais, Picasso.
Van Gogh.
Ouais.
Je m'appelle Carole Chesson et je suis la productrice et la fondatrice de Bloom, la radio des enfants. Donc on produit des programmes audio pour les enfants d'aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez que Picasso et Van Gogh, quand c'était un enfant, parce que quand c'était des enfants, ils faisaient déjà des dessins ?
Nous, en fait, on a choisi ce terme de radio pour exprimer plutôt la diversité de nos rubriques. On n'a pas de flux, on n'a pas de chaîne qui diffuse en continu ou quoi que ce soit. On vient sur notre site, on vient sur les plateformes, on écoute ce dont on a envie. Donc on s'est appelé radio parce qu'à l'époque, podcast, c'était pas encore un terme qui était à la mode et qu'on était sûr que tout le monde allait comprendre ce que ça voulait dire de s'appeler la radio des enfants.
Famille, je réussis. Le plus proche possible de la réalité. Ouais. Bah, regarde.
Donc nous, on a monté Bloom, la radio des enfants, parce qu'on se disait qu'il y avait une très grande offre sur les écrans, mais finalement, il n'y avait pas grand-chose à l'audio. C'est-à-dire qu'il y avait les CD traditionnels de Comte et Trontine, mais on trouvait qu'il pouvait y avoir bien plus de choses que ça. Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « mais une radio pour les enfants, n'importe quoi, à l'ère du numérique, ils sont tous sur les tablettes et tout ». Et en fait, on a vraiment pu constater que les parents comme les enfants, ils étaient tout à fait prêts à aller écouter des choses et que finalement, ils étaient bien contents de ne pas être tout le temps sur les écrans, les parents comme les enfants, de pouvoir proposer autre chose que de l'écran aux enfants, un autre divertissement.
Et est-ce que toi, tu fais de la musique ?
Non.
Non, mais tu fais des dessins ?
Oui.
C'est ça ? Poser une question aux enfants, on est dans la conversation, mais on fait aussi des choses très produites, des contes, des émissions qui sont avec beaucoup de sound design, des choses pour vraiment accompagner l'enfant et pour le plonger surtout dans un univers. Le fait qu'on passe par une voix d'enfant, ça va capter beaucoup plus l'attention des familles et ça va rendre le sujet plus proche parce que les enfants vont se dire « moi aussi, je peux avoir un avis sur ce sujet et moi aussi, je peux avoir quelque chose à dire ».
Bienvenue donc dans ce nouveau live, celui du Bureau des Mystères qui, comme son nom l'indique, est un podcast qui parle de mystères autour d'un bureau. Donc faites un tonnerre d'applaudissements pour eux et c'est à vous.
Donc on va rester dans l'actualité et c'est The Haunting of Dordogne House.
La nécessité de s'exprimer.
Et ça a commencé, si je me souviens bien, par des bruits dans la cuisine. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter ça ?
Une vogue du jeu. C'est un mode d'expression, c'est une façon pour des gens, pour des minorités, pour des signatures de s'affirmer. C'est un peu analogue au début du blog. Il ne faudrait pas que ça devienne ce que sont devenus les blogs aussi. On a beaucoup cru au début de l'Internet, on s'est dit les blogs, chacun va pouvoir faire son propre média, être éditeur. Qu'est-ce qui a survécu ? Les bons blogueurs ont été rachetés par les médias. Bon, c'est peut-être ce qui va arriver avec le podcast. Ce qui s'est passé aussi, c'est que tout simplement, nous, on parlait de radio, de création radio. Le mot n'était sans doute pas le bon. En tout cas, il n'était pas sexy, il faisait envie à personne. À partir du moment où on appelle ça podcast, tout va bien. Donc, il y a un phénomène de mode quand même.
Arte Radio fait des émules aujourd'hui avec d'autres approches, même commerciales aujourd'hui. Comment vous le regardez, vous qui avez été un précurseur ? Bonne chose, pas mauvaise chose ?
C'est forcément une bonne chose. Plus il y a de pizzerias dans la rue, plus les gens écoutent de podcasts ou quelque chose comme ça. Quand j'interroge les jeunes gens, les auditeurs qu'on voit ici au Festival du Podcast, et ça fait déjà 2 ans que ça dure, ils ou elles surtout me disent « moi je suis abonné à La Poudre, au Pied sur Terre de France Culture et à Arte Radio ». D'autres vont dire « moi c'est un podcast à soi et telle chose ». Donc c'est très bien.
Comme tout festival, il y a des temps d'attente. Là, j'attends soit la réalisation d'un podcast en direct, soit de conférences, débats, en tout cas avec du public.
C'est une activité assez solitaire, le podcast, c'est justement pour pouvoir retrouver justement tous les gens qui s'appassionnent et pouvoir vivre ça ensemble, je trouve ça cool.
Je crois que mon premier, ça devait être l'émission de Very Good Trip de Mishka Assayas sur France Inter. Et de là, j'ai téléchargé l'application, et l'application, j'avais Podcast Addict au début, puis après on a des suggestions, et maintenant j'écoute plusieurs choses, j'écoute des émissions sur France Inter, etc. C'est comme ça que j'ai commencé, et j'adore.
C'est des histoires insolites, et que les deux garçons qui l'animent sont très amusants.
Côté un peu cool, quoi, vraiment, comme des potes.
Sans tomber dans l'intime non plus, vous l'écoutez au lit, vous l'écoutez dans durant le trajet, avec le téléphone, comment vous faites hein ?
Alors j'écoute sur mon iPod et j'écoute dans le métro et le matin en me réveillant.
Mais c'est vrai que le podcast a ce côté un peu spontané, que la radio, enfin, c'est pas spontané, mais ce côté où on peut réécouter quand on a envie, où on a envie, et sans forcément avoir un poste de radio. Ou voilà.
Pendant presque 12-13 ans, on a prêché un peu dans le désert, on était un peu seul, et même Arte Radio reste un projet exceptionnel. Mais ça commence à faire, le podcast se met à faire du documentaire, mais pour des tas de raisons, on était un peu seul. Alors, qu'est-ce qui explique l'engouement pour le podcast ? Tout simplement son mode de distribution. Le fait que l'application de podcast est désormais intégrée au smartphone. Vous achetez un iPhone, il y a l'application de podcast. Mine de rien, ça fait beaucoup.
Si on n'avait pas été à l'ère du numérique, ça aurait été impossible de lancer Bloom la radio des enfants parce qu'il faut une onde hertzienne, etc., etc. Et que ça, on ne l'a pas. Mais donc aujourd'hui, par Internet, par toutes les plateformes qui existent, etc., ça nous permet d'être diffusés et d'être écoutés partout dans le monde. Et on est ravis d'ailleurs de voir qu'il y a des gens en Russie, au Canada bien entendu, mais aussi en Australie qui écoute Bloom la radio des enfants.
Placement, ouais, des choses comme ça. Il faut bien parler, il faut faire des petits bisous au micro pour qu'on t'entende bien.
Donc là, on se retrouve à l'extérieur. On s'éloigne un peu des sons de ce festival et on se retrouve avec
Mélissa Bounois de Louis Média.
Qui existe depuis combien de temps et de quoi s'agit-il ?
Louis Média, ça existe depuis décembre 2017, officiellement. Non officiellement depuis mi-2017. C'est un studio de podcast.
Même ici, il y a du bruit.
C'est un studio de podcast qui veut produire des podcasts narratifs qui racontent des histoires. Donc on a sorti un premier podcast qui s'appelle Entre. Et dans Entre, on suit une petite fille pendant un an. On a diffusé ça en 26 épisodes. Très court comme épisode, parce qu'en fait, comme c'est une petite fille de 11 ans qui parle, on peut pas la laisser parler 20 minutes comme dans un épisode d'un autre podcast où ce sera un adulte qui parlerait, parce qu'en fait on n'a jamais entendu un enfant parler pendant 20 minutes d'un même sujet.
Pourquoi avoir choisi le podcast plutôt que des radios? Il y en a souvent à proximité.
Bah, les radios, il faut quand même avoir un flux et avoir des programmes. Et en fait, on est deux avec mon associé Charlotte Pudlowski, donc on n'avait absolument pas les forces pour produire autant de programmes pour diffuser sur une radio toute la journée. Donc on aime beaucoup ce format de podcast qu'on peut télécharger, prendre en mobilité. Ça nous correspondait vraiment beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on a préféré vu nos petits moyens de production. Mais ça marche très bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes maintenant pour produire des podcasts pour d'autres gens.
C'est-à-dire, ça a bien marché. Je crois que la série bien connue
Entre a très bien marché. Et puis en plus, surtout, nous, avec Charlotte Pulowski, on était journaliste. On travaillait chez Slate.fr. Et là-bas, on avait lancé un podcast qui s'appelle Transfert, qui est un podcast natif, l'un des plus écoutés en France. Ce qui fait que voilà, les gens savent qu'on sait faire du podcast. Et comme ça, on a pu se faire connaître. Et du coup, aujourd'hui, des marques et des institutions viennent nous voir pour avoir leur podcast fait par Louis Média.
Je m'appelle Sylvain Gire. Je suis le responsable d'Arte Radio. C'était complètement fou. C'était un projet d'Arte France, la branche française d'Arte, de faire une radio web à la demande. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 2002, il faut se remettre dans le contexte, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de podcast. Le mot podcast apparaît en 2004, donc 2 ans après. Mais on a eu cette intuition, bah, par la force des choses, on avait peu de budget, on travaillait déjà entièrement en numérique. Et on ne voulait pas faire un ruban qui dure 24 heures sur 24 parce qu'on n'en avait pas les moyens. Et puis diffuser de la musique ne nous intéressait pas. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment de la création, c'est-à-dire du reportage, des fictions, des bricolages sonores. Et donc très vite, on a eu l'intuition qu'il fallait mettre ça à disposition des auditeurs donc sur le web, en streaming, mais aussi en téléchargement. En 2002, le haut débit n'est même pas disponible pour les particuliers. Donc on fait des œuvres très courtes, enfin des œuvres, des reportages, des bricolages de quelques minutes maximum. Et puis, avec la diffusion du haut débit et maintenant le succès du podcast depuis 2-3 ans en France, on peut se permettre de faire des œuvres beaucoup plus longues et des rendez-vous au long cours. C'est toujours pareil, les contraintes sont source de liberté. La contrainte, c'est qu'on était deux. Un jeune ingénieur du son, Christophe Rau, qui avait 22 ans, et moi, Sylvain Gire, qui en avait 38. On était deux sur le projet. Donc, un petit budget, un vrai beau studio de radio que Arte France avait fait construire au rez-de-chaussée et dont on se sert toujours. Mais voilà, on est deux, on ne va pas faire 24 heures sur 24. C'est pas intéressant de faire du Souffrance Inter ou du Souffrance Culture. C'est pas intéressant de faire ce que font les grands, les médias mainstream. Ils sont là, ils ont leur capacité, leurs moyens, leur personnel. Nous, on n'avait pas ça. Donc, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la création et l'expression. C'est de donner aux gens la possibilité de parler de leur vie. Donc, la baseline, si vous voulez, la devise d'Arte Radio, c'est écouter le monde et les vies qu'on y mène. Donc, ça voulait dire parler de soi, de sa vie, de son rapport à l'intime, à la société, à l'écoute, mais d'utiliser toutes les potentialités du sonore. Ce qui est assez intéressant, c'était qu'à cette époque-là, en 2002, tous les grands médias se ruent sur la vidéo. Or, il n'y a pas de haut débit. Donc, ils vont engloutir des millions sur des chaînes de vidéo web, de télé web, qui ne vont jamais marcher et qui ne vont jamais trouver leur public. Parce qu'ils essayent de faire comme les grands sans en avoir les moyens et sur un espace qui ne le permet pas. Le son étant beaucoup moins lourd que l'image, le son circule beaucoup plus facilement. Et puis, Christophe Rau et moi, nous sommes des enfants de la radio. Nous aimons ce qu'on appelle la radio élaborée, enfin la radio qui n'est pas du direct, pas simplement du talk, celle qui prend son temps à la prise de son et au mixage. Donc, dans cette histoire de audio, podcast, radio, moi je préfère parler d'écoute. Notre intuition, c'est que l'écoute est une activité humaine très particulière, qui nous fonde un peu, l'homme est un être de parole. Et donc l'écoute, ça veut dire que c'est un moment arraché au reste du temps, à la vie sociale, et grâce au téléchargement, on l'emmène avec soi. Donc on écoute à des moments où on a envie de s'occuper. Ça remplace un peu la lecture. C'est un rapport intime. L'écoute, ça fait appel à une dimension très affective, très enfouie en chacun de nous, à notre mémoire personnelle, à nos émotions. Et comme dans la lecture d'un livre, chacun projette ses images dans la voix qu'il entend. Donc c'est ça nos intuitions. Ce sont vraiment des intuitions, et puis je crois quand même une volonté éditoriale assez forte, ne pas faire de rendez-vous culturels, ne pas faire de critiques, ne pas donner la parole à des célébrités, vraiment travailler sur du réel, former des jeunes gens, leur confier du bon matériel et leur dire « allez-y, allez enregistrer ce qui se passe en banlieue, chez vos parents, chez vous.
Oups. Je suis Grégoire Moll, membre du collectif Les Mois Sonores. Nous, on est un collectif de 5 personnes. On fait des recommandations mensuelles où on recommande en fait 5 podcasts. Et on a aussi une encyclopédie de podcasts. On a répertorié plus de 200 podcasts que vous pouvez trier par catégorie, par durée, par studio de podcast. Et, ouais, et donc fort de ça, là on organise aujourd'hui un atelier où les gens répondent à un petit questionnaire sur leur goût et on leur recommande des podcasts qui vont leur plaire en fonction de ce qu'ils répondent.
Je sais pas si vous l'avez déjà écouté, mais elle se met en scène dans cette enfin, elle s'enregistre dans sa vie.
J'ai déjà écouté, c'est pas elle qui a fait Mon Prince, Un jour mon prince viendra.
Alors elle c'est Claire Tégré.
Ah oui, non alors je sais plus quand est-ce que je l'ai.
Mais je la connais. Elle a fait plein de trucs. Je ne saurais pas vous citer, mais elle bosse aussi au pied sur terre en fait.
Ouais, voilà, bah,
c'est pour ça. La narration sonore permet des choses que ne permet pas forcément la narration à l'écrit ou à la vidéo. C'est une forme de narration en fait. C'est une forme de narration qui moi me plaît beaucoup et me parle beaucoup. Et donc c'est aussi moi, ça m'arrive d'écouter des podcasts juste en étant assis ou allongé, voilà, sans rien faire d'autre. Quoi.
Pourquoi ça vous parle ?
Ça me parle parce que plusieurs choses en fait. Je pense que le fait de ne pas voir les personnes qui parlent, on les écoute vraiment, on prend vraiment le temps de les écouter, en fait. On sait que le cerveau juge très rapidement les personnes qu'on voit. En une demi-seconde, en une seconde, on se fait une idée sur la personne juste de la façon dont elle apparaît, la façon dont elle présente. Là, le fait de ne pas la voir, on écoute vraiment ce qu'elle dit. Et du coup, on se rend compte que bah, voilà, on peut avoir accès comme ça à des nouvelles idées, à des nouveaux témoignages auxquels on pouvait se fermer avant parce que quand vous voyez quelqu'un, vous faites une idée sur cette personne et donc vous allez interpréter ce qu'elle va dire par rapport à l'idée que vous êtes conçue en une demi-seconde. Quoi. Et donc, pour moi, ça m'intéresse du coup d'avoir ces témoignages simplement audio.
Je pense que la génération qui a 20, 25, 30 ans maintenant a un rapport à l'intime, à la sexualité, à la parentalité, au travail et même au logement qui est radicalement différent de celui des générations qui les ont précédées. C'est ça dont on veut rendre compte. Dans les médias traditionnels, c'est beaucoup plus difficile. Il y a un regard un peu surplombant du journaliste. Le but d'Arte Radio, c'est qu'aussi les gens puissent s'exprimer pour eux-mêmes. Alors, ce n'est pas de la libre antenne, c'est un travail, mais on veut former des auteurs, des gens qui ont vraiment un point de vue, un angle. Et c'est vrai que ce qui nous intéressait dans l'art de la radio, dans l'art de l'écoute, c'est la place faite au son, au silence, au montage, au mixage. On veut faire des reportages qu'on puisse écouter plusieurs fois. Pas une seule fois, pas le ruban radiophonique qui rentre par une oreille et qui sort par l'autre, mais quelque chose qui est le statut d'une nouvelle ou d'un livre ou d'un poème ou d'un film de qualité et qu'on va pouvoir écouter plusieurs fois.
Ça avait quasiment disparu, hein ?
Non, mais c'était des niches. Ça existait à l'état de niche sur France Culture et un peu sur France Inter. Et c'est vrai que les radios privées ne font guère de création radiophonique et les radios associatives en font par contre un peu, mais sans moyens. C'est vrai que nous, on avait la possibilité, on avait les moyens, on aurait pu prendre complètement d'autres options, mais ça nous paraissait évident que c'est ça qu'on avait envie de faire.
Et là, pour le coup, c'est vraiment une adolescente qui rentre en sixième et ils ont eu un petit... c'est un petit journal, quoi. Elle a enregistré.
Il y a deux Arte Radio. Il y a celui que vous ouvrez à tout le monde, tous les podcasteurs qui peuvent avoir une plateforme pour déposer leur création. Et puis il y a vous, parce que c'est un travail de création. Un documentaire en télévision, ça se paye. Un sujet, un journal, ça se paye. Et vous, vous faites comment? Alors, comment ça marche en coulisses, finalement ?
Bah, vous avez raison. Il y a la plateforme qui s'appelle Audioblog, audioblog.arteradio.com. C'est une plateforme ouverte, effectivement, pour tout le monde, pour que les gens déposent leur propre création. Il n'y a pas de pub, c'est gratuit, mais ce n'est pas rémunéré. C'est comme un espace de blog, c'est un espace ouvert pour les créateurs, solitaires ou pas, pour les ateliers à l'école aussi, il y en a beaucoup, de manière à ce qu'une fois qu'on a fait son son, son émission de radio, bon, on ne s'embête pas à faire le site internet, on la dépose directement sur son audioblog et on administre son blog comme on veut. Et puis il y a arteradio.com, la maison mère. Là, ce sont des objets éditorialisés, professionnels et rémunérés. Donc on a un budget. On est 5 sur 3 postes et demi, enfin 6 maintenant avec une alternante sur 3 postes et demi, donc 2 personnes à plein temps, 3 à mi-temps. Et puis on a 400 000 euros annuels pour faire tourner Arte Radio, c'est 400 000 euros. Là-dedans, il y en a à peu près la moitié qui vont aux auteurs. Donc, nos auteurs sont rémunérés, leurs œuvres sont déposées à la SCAM pour les documentaires, à la SACD pour la fiction, et ils perçoivent des droits en plus des cachets que leur propose Arte Radio. On a choisi de bien payer les gens, c'est-à-dire beaucoup mieux que partout ailleurs, y compris dans les radios traditionnelles, et on a choisi de se donner du temps. Oups.
j'ai bientôt 30 ans et j'écoute des podcasts depuis... Alors, j'écoute énormément de podcasts depuis 3-4 ans parce que je suis vraiment... Je me suis vraiment mise à écouter beaucoup de podcasts à ce moment-là, mais auparavant, j'ai écouté à travers mes années de lycée et au début de mes études, j'écoutais quand même pas mal de replays de France Culture et de France Inter. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est la diversité des voix.
C'est un tabac, on est là pour dire les choses, Cédric, personne ne se jugera ici, d'accord ? Moi, j'ai hurlé sur les enfants.
Ce qu'on écoute en replay, c'est des émissions qu'on connaît déjà et qu'on a ratées, qu'on a envie d'écouter, on a envie de rattraper le temps perdu, les moments où on n'était pas dispo. Mais on est quand même soumis aux contraintes de ce que les institutions médiatiques, telles qu'elles existent aujourd'hui, et leur, la manière dont elles sont construites, la manière dont elles sont hiérarchisées, on est soumis à la présélection de voix qu'ils opèrent, dans, à qui ils donnent l'antenne, qui ils laissent parler au micro. Et la liberté qu'offre le podcast, c'est une diversité.
Alors le podcast a pris une évolution que je n'anticipais pas. Pour moi, le web, c'était la liberté, justement, de ne pas faire toujours une heure le lundi à 19h. Il s'avère qu'en fait, les gens attendent leur podcast régulier toutes les semaines ou tous les mois. Nous, c'est vrai qu'on a des podcasts, des rendez-vous réguliers, des émissions qui reviennent chaque mois, chaque semaine, mais on fait beaucoup de one-shot, de projets unitaires. Quelqu'un m'écrit, me propose un projet, donc il faut que le projet ne soit pas réalisé par ailleurs. Tout doit se faire avec nous. Donc je me fonde sur une conversation ou sur un mail, et puis on rencontre l'auteur, on travaille énormément en amont. Que faire ? Qu'est-ce qu'on va interviewer ? Qui est-ce qu'on va interviewer ? Comment on va placer son micro ? Quel micro on va utiliser ? Nos auteurs, débutants comme professionnels, sont formés à la prise de son par nos chargés de production. On leur confie du très bon matériel. Ils partent seuls, enregistrés, en général seuls. Ils prémontent leur sujet seuls, parce que le montage est une étape essentielle dans la narration. Ensuite, je valide ou pas. Donc là, on discute. Je dis, ça c'est bien, mais ça, on peut s'en passer. Ça, tu l'as déjà dit. Là, on manque un peu d'ambiance. Et ensuite, il y a une réalisation finale qui est toujours assumée par les réalisateurs d'Arte Radio, qui reprennent tout le projet qu'ils n'ont pas connu jusqu'à présent et qui, avec l'auteur, prennent le temps qu'il faut. Un jour, deux jours, trois jours, 10 jours pour faire aboutir complètement la réalisation du documentaire ou de la fiction. Et ensuite, on met en ligne et les gens sont payés. On paye les gens au nombre de jours de travail. Ça nous arrivait de payer 8 jours pour 5 minutes. C'est une économie très particulière qui est celle du service public. C'est Arte Radio, c'est un financement public, il n'y a pas de pub. Le site est gratuit, tout est gratuit, mais les auteurs sont rémunérés. J'avoue qu'on a longtemps eu peur de rester très seul. Je ne m'attendais pas non plus, je vous dis, à ce succès de l'abonnement, de la régularité. C'est compliqué pour nous parce que nous, on fait des objets différents. Chaque semaine, la programmation est différente. Quelqu'un va faire un documentaire sur Arte Radio et puis il ne va plus en faire pendant un an ou il ne va peut-être plus en faire du tout. Le podcast qui triomphe actuellement, qui s'impose, ce n'est pas ça. C'est la même émission toutes les semaines ou tous les mois. C'est vrai que nous, on n'était pas forcément partis là-dessus. Mais je constate que les podcasts d'Arte Radio ont quand même un grand succès. Ils trouvent leur public et surtout, ils le trouvent sur une longue durée. Comme on a fait le parti pris de tout laisser en ligne, on a 2200 productions en ligne, donc y compris des productions qui ont 12 ans. Eh bien, en fait, grâce aux réseaux sociaux, on peut remettre en avant un documentaire. Le fait de ne pas être collé à l'actualité fait qu'un documentaire qui a été fait il y a 10 ans peut rester pertinent et peut trouver à nouveau son public.
Des petits bisous au micro pour qu'on t'entende bien.
L'emblème d'Arte Radio, c'est un micro tendu. C'est un micro tendu au monde.
Moi qui aime la radio, je me suis souvent posé la question, mais pourquoi quand le numérique est arrivé...
Ça allait, je parle beaucoup, je suis désolé.
Pourquoi eux ont choisi plutôt de le podcast ?
T'as pas une nouvelle pointe ?
Elle est grande.
T'en as pas une petite ?
Si, mais elle est ancienne.
Bonjour.
C'est quoi ?
C'est juste parce que je viens du festival du podcast et j'ai adoré votre histoire de poils.
Ah. Bon, en fait, il faut qu'on achète de nouvelles poils, tout simplement, hein, pour pas que ça colle.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un drame avec les autres poils ?
Ah, aucun drame. C'est juste qu'il faut renouveler des fois les poils, c'est tout.
Merci.
Je vous en prie, bonne journée.
Bonne journée. A priori, le podcast, c'est pas pour moi. Mais c'est pas grave, c'est la fin d'Ici Londres. Merci d'avoir écouté cette émission. Merci aux radios qui diffusent cette émission de radio, tant pis. Et sur ce, bonne écoute.
déteste cette ville.
Un micro tendu au monde.